bonsoir et bienvenue dans cette émission. 20 civils tués, plusieurs maisons incendiées dans la localité de Kikoura, secteur des Rwenzori, dans les territoires des Beni au Nord Kivu. C'était dans la nuit de dimanche à lundi 28 février dernier. Les FARDC qui ont annoncé la nouvelle attribuent cette attaque aux rebelles de l'EDF. Mardi, les FARDC ont affirmé avoir neutralisé 18 rebelles EDF lors de la poursuite de ces derniers, dont un de leurs chefs. L'armée parle aussi des armes récupérées, des 12 otages libérés, tous des enfants, ainsi que des 4 ADF capturés. Quel tir faire de la persistance des massacres des civils dans ces territoires en dépit de la mutualisation des forces? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons capitaine Anthony Mwalusha, il est porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 dans le Grand Nord. Bonsoir capitaine Anthony Mwalusha.
Bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi, bonsoir chers co-débatteurs.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Il est aussi membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir monsieur Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa.
Bonsoir Guy Matin, bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et professeur Casimir Ngumbi, il est politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Bonsoir professeur Casimir Ngumbi.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux co-débatteurs, bonsoir aux auditeurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission. Nous le disions dans les sommaires, au moins 20 civils tués, c'est le bilan encore provisoire d'une nouvelle attaque des présumés rebelles EDF dans la localité de Kikoura. Nous sommes dans le groupement Banyangala, en secteur des Rwenzori, territoire des Beni. Les sources locales indiquent que les populations ont pris la fuite en direction des Nobili et Kamango. L'armée confirme l'attaque. Marc Marofimbo pour les détails.
La société civile de la chefferie de Watalinga ainsi que les organisations des droits de l'homme soulignent que l'incursion de ces présumés EDF a eu lieu tard dans la nuit alors que la population était déjà plongée dans un profond sommeil. Ce lundi matin, les sources locales à Kikoura parlent de 20 corps de civils retrouvés et d'un bilan qui pourrait s'alourdir parce que les fuites se poursuivent. Une psychose généralisée s'est apparue des habitants qui ont quitté chez elles, renseigne la société civile. Certains ont pris la direction de Nobili, 3 km de la localité attaquée, et d'autres Kamango. Ce bilan n'est pas encore confirmé par l'armée, qui reconnaît toutefois cette attaque. La société civile souligne que les assaillants se seraient retirés de Kikoura et se cantonneraient aux environs de l'école primaire Mulihi, qui est abandonnée depuis la recrudescence des attaques dans la région. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Merci à vous, Marc Marofimbo, capitaine Anthony Mwalushai. Vous êtes porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 dans les Grands Nord. Quelle est votre lecture de la persistance des massacres des civils dans Beni en dépit de la coalition FRDC-UPDF en pleine opération contre justement les EDF?
D'accord, je tiens à vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez chaque fois pour expliquer à la population ce que c'est la guerre et aussi à informer à notre population le niveau des opérations, là où nous nous trouvons maintenant avec les opérations, bien sûr. Alors, pour répondre à la question, il faut vous dire que l'ennemi que nous avons ensemble avec les amis ougandais de l'armée UPDF, commencé les opérations le 30 novembre de l'année passée. Aujourd'hui, 3 mois après, il est important de vous dire que l'ennemi était d'abord costaud et les sites ou bien les cibles que nous avons déjà pilonnées nous renseignent surtout quand on prend les témoignages des rescapés qui sont à notre office, qui sont plus de 60, que nous avons capturés, que nous avons sauvés dans les griffes de l'ennemi, nous renseignent et nous félicitent même que nous avons fait un bon travail qui a fait mal à l'ennemi. Alors pourquoi l'ennemi continue à faire des incursions au moment où nous sommes en opération conjointe avec les amis ougandais? Alors c'est pour vous répondre indirectement que d'abord l'ennemi veut montrer encore à la face du monde et surtout à ses partenaires qu'il est encore là, qu'il peut faire quelque chose, continuer à semer la terreur au sein de notre population, continuer à semer la confusion dans les têtes des analystes ou bien des Congolais pour nous diviser davantage. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Et aussi, l'ennemi qui a enregistré beaucoup de blessés n'a qu'un seul objectif, de piller ou bien de s'approvisionner en produits pharmaceutiques. Voilà un peu la raison. Les raisons premières qui justifient ces différentes incursions.
Capitaine Anthony Malouchaï, le village de Kikoura où les tueries ont eu lieu est situé à environ 15 km de Mukakati. Mukakati, c'est une base de l'armée ougandaise de UPDF. Au massacre, plus de 20 civils, on incendie des villages et tout cela à quelques kilomètres d'une base militaire. Anthony Malouchaï, deux hypothèses, hein, soit le mécanisme d'alerte n'a pas fonctionné, soit ce mécanisme a fonctionné, l'armée avait l'information à temps, mais elle est intervenue en retard. C'est quoi l'hypothèse la plus plausible selon vous, capitaine Anthony Malouchaï?
Non, moi je vais vous dire le contraire. Les mécanismes d'alerte a fonctionné, mais avec retard. Pourquoi? Parce que l'ennemi a fait son incursion. Vous avez entendu le Marc Marfimbo dans son reportage vous dire que c'était au milieu de la nuit, au moment où la population dormait. Alors, l'ennemi a commencé à égorger sans tirer. Donc, il n'y avait pas vraiment l'alerte. C'est au moment des tirs où l'ennemi était déjà en train de partir que nos troupes ont eu l'information qu'il y a eu incursion. En venant, malgré qu'on est arrivé avec un retard, mais nous sommes allés jusqu'à poursuivre l'ennemi jusqu'à son retachement. Et là, vous avez suivi le bilan qui est salué par tout le monde, quelles que soient nos positions, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Tous les Congolais ont salué le bon travail réalisé par l'armée, mais nous déplorons seulement qu'il y ait déjà nos concitoyens qui ont perdu la vie. Voilà, c'est aussi ça la guerre. Et nous continuons toujours à vous dire que la guerre, ce n'est pas une science exacte. La guerre, c'est la guerre, l'ennemi planifie, nous planifions. Quand il y a la victoire, c'est la victoire de tout le monde. Quand il y a l'échec, c'est l'échec de tout le monde.
Comment vous expliquez le fait que c'est plutôt les tirs de l'ennemi qui informent l'armée, au lieu que ce soit les mécanismes qui a été mis en place entre la population et l'armée qui puissent informer cette armée-là?
Mais écoutez, quand quelqu'un dort, c'est aux alentours de 2 heures du matin, les gens dorment déjà, mais on entre dans une maison, on commence déjà à décapiter et les voisins n'est même pas au courant. C'est après que l'ennemi ait terminé ses actes ignobles qu'il a tiré. Et nous, là où nous étions à plus ou moins 5 kilomètres, nous avons commencé directement à poursuivre l'ennemi et arrivé sur terrain, nous avons pu observer que l'ennemi était déjà parti. On n'était pas fatigué, on a suivi l'ennemi jusqu'à 7 kilomètres au nord du village et nous sommes entrés en contact avec l'ennemi et nous avons réagi comme des hommes en uniforme qui se respectent, n'est-ce pas, pour venger notre population.
La société civile locale estime que les militaires ont laissé à l'ennemi le temps de se réorganiser. Est-ce qu'on ne peut pas donner raison à cette société civile, étant donné qu'on ne parle plus des opérations de grande envergure comme cela a été annoncé en novembre et décembre dernier? Est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des forces armées un certain relâchement et du coup les rebelles en ont profité pour opérer en toute quiétude?
Non, je ne pense pas. Relâchement, vraiment, je ne pense pas parce que nous sommes sur terrain, nous connaissons ce que nous sommes en train de faire. Et la société civile qui est avec la population ne maîtrise pas nécessairement le rôle ou bien les réalités du terrain. Donc, parler de relâchement, je ne pense pas. Nous sommes en train de travailler et quand on frappe les positions militaires, effectivement, l'ennemi qui va s'échapper au feu des forces de l'ordre va se réfugier dans d'autres zones. C'est pourquoi vous avez vu, non seulement les forces sont encore à Mukakati, mais on a envoyé d'autres poursuivre l'ennemi. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à Kainama. À Kainama, en train de poursuivre l'ennemi. Donc, dire que nous avons négligé ou bien nous avons relâché, non, c'est non. Nous sommes en train de travailler et la preuve est que nous avons beaucoup de capturés du côté ennemi et même celui, le commandant qui a commandé cette opération, nous les avons neutralisés. Il est de la nationalité tanzanienne. Ça prouve vraiment que nous avons vraiment les soucis de donner la paix à notre population conformément aux vœux du commandant suprême.
Capitaine Anthony Mwalushai, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la solution à l'insécurité dans l'est de la RDC n'est ni la mutualisation des forces, ni l'instauration de l'état de siège, mais plutôt le rétablissement et le renforcement de l'autorité de l'État qui passe par la réorganisation des FRDC dans une approche globale?
Oui, chacun est libre de penser tout ce qui peut passer dans la tête, mais nous sommes en République démocratique du Congo, donc c'est la liberté d'expression. On n'a pas dit que la solution seulement militaire, mais nous sommes dans les opérations, nous avons reçu des missions, nous avons reçu des ordres, et nous sommes engagés dans les opérations militaires. Au niveau stratégique, il y a ceux qui pensent que sur les plans politiques, il y a des mécanismes, ça c'est un niveau très élevé et que je ne peux pas attaquer ce soir. Mais j'ai toujours dit que le mal de nous Congolais, c'est que nous pensons que l'affaire sécurité, c'est l'affaire de l'armée seule, c'est l'affaire des autres. Les autres doivent faire ça. Quand vous me parlez de la société civile et les autres, ils pensent que ils sont à côté et leur travail, c'est compter les morts, faire les bilans, s'attaquer à... Non. Mais le problème, c'est venir avec toutes ces propositions à l'armée au niveau stratégique et évoluer ensemble. Mais penser que les opérations militaires ont échoué, c'est aller trop vite en besogne.
Merci Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Vous êtes aussi membre de la commission des forces et sécurité à l'Assemblée nationale. Et comment vous analysez la persistance de l'insécurité ou bien des massacres, n'est-ce pas, à Beni, surtout avec cette nouvelle donne, les opérations militaires conjointes entre les armées congolaises et ougandaises?
Merci de la question, Guimaté. Le constat que je fais, comme vous l'avez bien dit dans les reportages, c'est que à Kikoura, nous comptons autour de 23 citoyens congolais tués. Mais avant cette dernière attaque de Kikoura, il faut rappeler que dans la même localité, l'agglomération de Nobili, les agglomérations de Luanoli, ont fait l'objet de plusieurs attaques tout au long de ce mois de janvier, de février. À Kikingi, nous avons enregistré des morts au cours de ce mois, c'est dans le même secteur de Rwenzori, autour de Owicha, sur la route Maleki, sur la route Mamové. Le mouvement des ADF sont enregistrés quotidiennement. Les tueries ont repris à nouveau sur la route Luna Komanda. En un seul jour, Andalia, nous avons enregistré 15 morts dans deux attaques le même jour. Une première attaque à 9h, une deuxième attaque à 20h. Actuellement, ils sont en train de balader, de semer la mort à Makumo, à Mandumbi, dans le Mambasa. Dernièrement, vous avez suivi ce qui s'est passé dans le territoire d'Irumu, en Ituri, où plus de 650 vaches ont été emportées, beaucoup de villages, beaucoup de maisons incendiées. Ça parlait du drame de Djougou. Bref, en dépit de la mutualisation, eh bien, les attaques se généralisent encore de nouveau. Cela nous rappelle la triste expérience vécue en janvier, février, mars 2020, après que notre armée ait lancé l'opération de grande envergure le 31 octobre 2019. Il y a eu relâchement après deux mois d'opération. Et l'année 2020 a été à nouveau une année sombre. Nous sommes en train de rééditer la même expérience et cela me conduit à dire que la mutualisation n'a pas apporté des réponses aux problèmes qui ont été à la base de la persistance des attaques en dépit du lancement des opérations militaires antérieures. Et ces réponses n'ont pas été apportés spécialement dans les chefs de notre armée, notamment pour améliorer la vitesse de notre armée à répondre aux attentes, aux alertes données par la population. Guimaté,
Vous serez témoin avec moi que, par exemple, pour l'attaque de Kikingi, la société civile avait déjà alerté l'armée une semaine avant. Et curieusement, il n'y a pas eu de réponse. Pour les attaques de Malekil de Mamobé, il y a eu même des rescapés que la société civile a conduit auprès des chefs de commandement. Les pisteurs que la société civile a mobilisés ont donné des alertes pour dire l'ennemi vient de traverser 3 jours successifs anticipés. Il n'y a pas eu d'anticipation. Donc, en dépit de la mutualisation, nous continuons à dénoncer la même lenteur et la négligence des alertes données par notre population, mais également la mutualisation n'a pas été accompagnée dans le cas de nos forces par un renforcement des capacités opérationnelles. Au plan des moyens de la capacité d'intervention, nos régiments n'ont pas été renforcés à terme des moyens d'intervention, mais également, est-ce qu'il y a eu renforcement des renseignements civils et militaires? J'ai bien suivi notre capitaine qui dit, pour l'attaque de Kikoura, l'ennemi a commencé les tueries à 19h. Jusqu'à 5h du matin, il est reparti. L'intervention n'est venue que la journée. Et le capitaine dit, l'ennemi a tué paisiblement, ça que notre armée est informée. Mais mon capitaine, est-ce que cela est vraiment acceptable que pendant tout ce temps, vous n'ayez pas eu des informations, alors que, comme je le disais tantôt, les alertes ont été données? Bref, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Autant lors des opérations de grande envergure, l'armée avait lancé les opérations sur un seul axe, l'axe Est. Mais les côtés Ouest, aussitôt que l'ennemi traverse la route nationale numéro 4 et va du côté Ouest, c'est comme si on n'a pas tiré les leçons des erreurs des opérations passées. Nous voyons à nouveau l'ennemi se réorganiser, se reconstituer et faire des représailles contre les populations au motif que les populations sont en train de livrer des informations à notre armée et ces populations-là se retrouvent entre les marteaux et l'enclume.
UPDF est à Beni depuis fin novembre 2021, donc plus de 3 mois. Honorable Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, quel bilan à mi-parcours pouvez-vous dresser depuis les débuts de la mutualisation des forces contre les ZDF? Est-ce que la situation sécuritaire s'est améliorée ou c'est plutôt le contraire qui s'est produit?
Toute la population a salué la première frappe opérée par l'UPDF à date du 30 novembre. Mais nous constatons qu'il y a eu un relâchement. Et ce relâchement a permis à ces ZDF de traverser du côté ouest, d'aller perpétuer des massacres dans les localités, les agglomérations dont je viens de vous parler. Mais ce qui est plus révoltant, c'est qu'aujourd'hui, les attaques se passent à 2 km, à 4 km de la frontière avec l'Ouganda. Kikoura, c'est proche de la frontière. Luanoli, Nobili, une agglomération qui n'avait jamais été attaquée. Bref, il y a une confusion. C'est là que nous avons l'obligation de renforcer urgentement la capacité opérationnelle de notre armée pour éviter que notre population ne sert pour découragement, parce que manifestement, l'objectif des ZDF, c'est de plonger notre population dans le désespoir, amener la population à se dresser à nouveau contre la mutualisation, et là, l'ennemi aura gagné. Mais ce n'est pas de la faute de la population, c'est de la faute du commandement de FNDC qui n'a pas anticipé, tiré les leçons de la persistance des tueries, de l'amplification des tueries. Comme je venais de le dire tantôt, en réaction aux opérations passées, l'armée devait lancer des opérations simultanées, tant du côté ouest que du côté de l'est, empêcher aux ZDF d'aller semer la mort ça et là, et cela nous aurait permis effectivement de limiter les dégâts. Mon capitaine dit, bon c'est la guerre, l'ennemi a planifié, mais mon capitaine, vous êtes soumis à l'obligation de résultat. La population qui a fait lancer, vous avez dit au propre plaisir à compter les morts, mais jusqu'au 6 février, nous avons totalisé pas moins de 141 personnes tuées au cours de cette année 2022. Avec les tueries actuelles, nous sommes autour de 200. C'est inquiétant, ce sont des morts de trop, alors qu'en 2021, sous l'état de siège, nous avons totalisé un chiffre jamais égalé de plus de 2000 morts. En 2020, c'était 1569. Mais jusqu'à Zaka, allons-nous continuer à justifier des faiblesses de notre part, alors qu'il était possible de tirer des leçons des opérations antérieures qui n'ont pas abouti?
Merci Jean-Baptiste Kasekwa. Professeur Casimir Ngoumbi, politologue expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés, quelle est votre analyse de la persistance des tueries des civils dans Beni malgré la mutualisation des forces?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste Guy Maté. C'est triste, effectivement. Le terrain révèle que de part et d'autre, les défaites et les victoires sont attribuées aux FARDC et l'UPDF, mais aussi aux ADF. Pourtant, la RDC veut réaliser, n'est-ce pas, une victoire, c'est-à-dire une restauration, et la paix durable sur toute l'étendue du territoire national comme indicateur que nous attendons tous pour justifier que les bilans deviennent de plus en plus positifs. Mais étant donné que cette paix durable traîne à venir, j'ai l'impression, monsieur le journaliste, que ces victoires de part et d'autre, ou ces échecs de part et d'autre, donnent l'impression que le poids de la guerre est au-dessus de la capacité militaire des FARDC et de l'UPDF. Vous vous rendez compte? C'est la question que je me pose quand je suis les co-débatteurs. Lorsque les populations dorment la nuit, n'est-ce pas? Les militaires doivent-ils aussi dormir? Peuvent-ils aussi se trouver à 7 kilomètres? Là déjà, il y a un problème du nombre de troupes. Vous savez, chaque fois que l'on a gagné un espace, mais cet espace est relâché après, ce sont les adeptes qui viennent récupérer. Je voudrais vous montrer avec des détails précis comment les victoires et les défaites sont observées. Mais ces victoires et ces défaites ne suffisent pas. En août, par exemple, en 2021, Sylvain King a dressé le bilan des 45 corps des ADF répertoriés lors d'une opération tranquille des FARDC, ainsi que les forces d'intervention rapide de la MONUSCO dans les positions de la E1 et D dans le Mualika, je crois, territoire de Beni ou Nordi. Il s'agit ici des zones de conflit derrière le Lusilubi, Nzeloupe, Semuliki et Talia. Par contre, le fait d'avoir démantelé leur quartier général a obligé les ADF à changer leur mode opératoire par l'attentat à la bombe que vous avez suivi en décembre 2021. Et ça montrait effectivement la stratégie des ADF supérieure à celle de FARDC et de l'UPDF. Le 19 décembre, aussi, il a été signalé une attaque à Mangina par les ADF et 15 personnes ont été tuées, en plus de 10 autres corps trouvés sans vie à Massirico, et Butakelo, des villages situés sur l'axe Mangina-Madumbi, à plus de 30 km à l'ouest de Beniville. Les informations diffusées dans les médias révèlent que les FARDC et les PDF bombardent au point de libérer les otages congolais détenus par les ADF, où plusieurs ADF sont capturés lorsque, n'est-ce pas, les troupes d'infanterie opèrent sur le sol après les bombardements. Mais cela ne suffit pas. Et les ADF aussi opèrent dans la population. Leur infiltration n'est plus à démontrer, monsieur le journaliste, parce qu'ils sont financièrement puissants et stratégiquement rusés. Les états des FARDC et des BDF sont piégés par certains défis, à mon avis, le respect des droits de l'homme. Lorsque les FARDC l'emportent sur les ADF, ils doivent éviter des tracasseries militaires, ils doivent éviter de violence, particulièrement la violence sexuelle, ils doivent éviter de vol de bétail, par exemple, mais pas aussi enfreint de droit international humanitaire. Tout cela fait que, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas parce que la RDC, même l'UPDF, qui est considéré aujourd'hui comme nos alliés, est-ce que nous savons répondre à la question de savoir qui fait la guerre contre la RDC?
Justement, vous êtes expert des groupes armés. Hein. D'où vient cette facilité des groupes armés de pouvoir se transformer de manière à s'adapter aux différents contextes, comme nous les remarquons, n'est-ce pas, dans notre pays? D'où vient leur capacité de résister?
La capacité de résister se situe au niveau du poids, à la fois militaire, du poids politique, du poids stratégique. Prenons par exemple les militaires congolais, qui meurent trois fois. Je parle de la triple mort du militaire congolais. Il meurt d'abord lors de sa formation, au recrutement, pendant les exercices militaires, au champ de tir, par exemple. Et lorsqu'il meurt, l'État congolais, n'est-ce pas, ne prend pas en charge la famille du militaire. Et cela reste ancré dans la psychologie du militaire, dans la psychisme du militaire. Il meurt aussi du maigre salaire, qui ne lui permet pas non seulement de prendre en charge sa famille et de se prendre lui-même en charge. Donc vous comprenez déjà que la personne du militaire est déjà un élément suffisant pour attester cette défaite. Troisièmement, de la mort au front, où vous avez le militaire qui meurt au front, et l'État ne prend pas efficacement en charge les veuves et les orphelins, et il les fait, et ceux qui restent en vie et qui sont au front retiennent que lorsque le militaire meurt, l'État ne sait pas le prendre en charge. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, certains militaires sont facilement corrompus pendant les opérations militaires, et ce qui traduit, n'est-ce pas, à mon avis, au niveau de cet élément, l'élément militaire, la personne qui est utilisée pour aller combattre contre l'ennemi, n'est-ce pas, est affectée suffisamment à tous les niveaux. Et lorsque cet élément, les militaires sont affectés à tous les niveaux, je ne le vois pas, moi, prendre les choses au sérieux, être capable, n'est-ce pas, de se battre contre l'ennemi au front. Deuxième élément, ce que je voudrais le dire ici, nous ne savons pas. L'UPDF, l'FRDC peuvent être forts sur le terrain. Ils peuvent avoir des moyens sur le terrain. Ils peuvent avoir de bonnes stratégies. Mais l'ennemi contre qui nous battons, monsieur le journaliste, il est plus fort. L'ennemi, il n'a pas seulement des agents au niveau de la RDC ou de l'Afrique centrale entre l'Ouganda et les Rwanda. L'ennemi, peut-être il vient de très loin. Est-ce que l'intelligence congolaise sur le plan politique, parce que je sais que les opposants et ceux qui sont au pouvoir se battent tous les jours, il y en a qui instrumentalisent ces différentes défaites pour des positionnements politiques, ça je sais. Est-ce qu'on ne vient pas? C'est bien beau, c'est la guerre sur le plan politique, c'est les combats politiques, mais est-ce que les politiques congolaises, les services de sécurité, ne peuvent pas à un moment donné s'asseoir et se poser cette question de savoir est-ce qu'on nous fait la guerre sur notre territoire par les acteurs que nous avons visiblement par nos yeux ou les acteurs de tout très loin?
Merci, professeur. Nous allons maintenant passer aux auditeurs hein, qui sont en train de donner leur point de vue par rapport à ces débats. Capitaine Anthony Mualushai, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bamporiki de Bukavu au sud Kivu. Avec tous les cas d'éléments capturés et même des repentis dont on parle par les ADF, comment le FRDC ne parvient-il toujours pas à découvrir toutes les stratégies terroristes de ces éléments visibles? Ces capturés et ces repentis-là, ne font-ils pas des révélations sur leur organisation criminelle?
Capitaine Anthony Mualushai.
Oui, mais je remercie d'abord l'auditeur de Bukavu. Si j'ai bien compris, il dit mais pourquoi en dépit de capturer et des ADF des rendus, pourquoi on n'exploite pas, il ne donne pas les stratégies de l'ennemi. Oui, il donne les stratégies de l'ennemi. Oui, nous les exploitons. C'est pourquoi nous avons toujours dit que nous avons les renseignements plus que ceux qui passent dans le média et s'autoproclament spécialistes en guerre, spécialistes en ceci. Donc nous avons des renseignements, nous avons des stratégies sur l'ennemi et nous sommes en train de travailler. Et il y a même les bons citoyens qui sont avec nous, la BNI, qui sont en train de nous révéler des choses et aussi de nous amener même vers l'ennemi et nous sommes en train de travailler. En tout cas, que l'auditeur soit vraiment tranquille et à l'aise, que l'armée travaille et il y a un bon résultat sur le terrain. Et permettez-moi que je revienne un peu à notre honorable Jean-Baptiste Mouindo, que je salue encore une fois. Honorable, je suis sûr qu'il est de l'opposition, c'est tout à fait normal, c'est dans notre pays, quand on est de l'opposition, on parle mal, ou bien on voit les choses négativement, et quand on est de la majorité, on pense que tout va bien. C'est son point de vue, je ne le contredis pas, c'est sa façon de voir les choses. Mais je pense qu'il est très loin, alors très loin de la réalité sur terrain. Je devrais lui demander de faire un tour à Béni et de voir le Béni d'hier et le Béni d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Béni, vous dites que l'armée ne fait rien. Alors, en tout cas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que la population de la ville de Béni et la population du territoire de Béni ont déjà vu un changement positif pendant les opérations en cours. Donc, nous ne devons pas à chaque fois venir dans les médias pour faire ce même débat de chaque année. Et l'armée dit que ça va, et l'opposition dit que ça ne va pas. Nous devons analyser les choses. Bien sûr, tout n'est pas rose sur le terrain. Nous sommes des humains, nous avons des erreurs. Mais ensemble, nous devons corriger ces erreurs-là. Nous ne devons pas applaudir l'armée quand il y a victoire et quand il y a échec, et donner cet échec-là à l'armée seule. Je félicite le professeur Casimir, parce qu'il a bien fait ses analyses, mais à chaque fois, ce que je n'ai pas aimé dans ses analyses, c'est qu'il a comme impression que les ADF ont une capacité supérieure aux deux forces, c'est-à-dire FADC et UPDF. Non, non, professeur, ce n'est pas ça. Il faut retenir que dans une opération militaire, l'ennemi le plus dangereux, ce n'est pas l'ennemi qui fait face à l'armée. C'est l'ennemi interne. C'est celui qui est plus dangereux. Parce que cet ennemi n'est pas connu. C'est cet ennemi qui donne toujours les positions militaires, qui donne toujours les mouvements des militaires. C'est celui-là qui est trop dangereux. Imaginez qu'on arrête un certain Ahmed Salim Rachid, qui est un terroriste connu qui a fait des campagnes médiatiques dans les vidéos qui se trouvent dans les réseaux sociaux. Mais on arrête et le monsieur nous révèle un Congolais qu'on a déjà arrêté, bien sûr. Un Congolais que nous, avec qui on habite à Béni, mais qui fournit chaque jour des produits pharmaceutiques, la nourriture à l'ennemi. Et c'est trop dangereux. Mais c'est le même Congolais là qu'on a arrêté. Et quand il passe dans les médias, dans les réseaux sociaux, il dit que l'armée ne fait rien. Oh, en attendant, il contribue.
Merci. Jean-Baptiste Mouine de Kwasekwa, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Farine Malassa depuis Kinshasa. Je soutiens toujours la mutualisation des forces, d'autant plus que l'État se multiplie et la neutralisation des ennemis est au rendez-vous. Nous reconnaissons aussi les efforts des FARDC dans les multiples attaques au front. Et je demande au chef de l'État d'user encore ses prérogatives constitutionnelles pour déclencher l'état de guerre à la place d'état de siège.
Honorable Jean-Baptiste Kassekwa.
Oui, je suis de son avis, il faut soutenir la mutualisation, mais ce que la population attend, et c'est que les députés élus de l'Ituri et de Nord-Kivu qui ont encouragé cet effort de la mutualisation, ce qu'ils attendent, c'est des résultats concrets à l'instar des résultats de l'opération Artemis qui, au bout de 3 mois, de juin à septembre 2003, opération Artemis nous a permis d'arrêter le cycle de violence à Bounia et à Vigo. Et aujourd'hui, 3 mois après l'effort de mutualisation, c'est ce à quoi la population s'attendait. Et nous devons tout faire pour que, effectivement, dans les tout prochains jours, ces efforts puissent continuer et que les résultats soient atteints. Mais si les tueries doivent continuer telles qu'elles le font aujourd'hui, les populations ne vont pas tolérer qu'au 15 juin de cette année, c'est-à-dire à la fin de la session parlementaire, le député aille à nouveau à vacances, donne une loi d'habilitation pour autoriser au gouvernement de continuer à prolonger l'état de siège, alors que la mutualisation et l'état de siège n'auraient pas apporté les résultats escomptés. Voilà pourquoi j'estime que il est important que nous puissions mettre en œuvre les recommandations issues de l'évaluation faite par l'Assemblée nationale et par le ministère de la Défense, deux rapports qui jusqu'à ce jour restent sans résultat et qui font que les capacités opérationnelles des FADC ne soient pas améliorées de manière à capitaliser les efforts et la volonté que notre armée est en train de démontrer sur le terrain.
Et à votre avis, c'est quoi la thérapeutique qu'il faut pour neutraliser, n'est-ce pas, les groupes armés et ramener la paix dans la partie orientale de la RDC? Vous avez parlé des opérations du type Artemis, mais que valent ces genres d'opérations lorsque, quelques années plus tard, les violences ressurgissent dans cette partie de l'Itourie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut faire au-delà, n'est-ce pas, des opérations du type Artemis, des opérations qu'il faut mener et qui peuvent faire que la paix puisse être rétablie de manière durable? Honorable Jean-Baptiste Kasekwa.
Le Guy Maté, lors de la capture de la chef Kenya, il a été informé par nos populations qui ont collaboré avec l'armée à vue de sa capture. Il a été saisi que les ADP étaient à demandade. Avec la mutualisation, ils ont été dispersés, délogés de leur sanctuaire et qu'ils étaient à difficulté pour se réorganiser, se ravitailler, et qu'il était donc possible, si les FADC, comme je l'ai dit, avaient décidé de lancer des opérations simultanées, aussi bien du côté est que du côté ouest de la RN4, il était possible d'anéantir les ADF grâce à la mutualisation et au concours des FARDC. Mais c'est le fait que la mutualisation n'a pas été accompagnée des renforcements des capacités opérationnelles suffisantes des FARDC. C'est aussi l'effet des relâchements observés dans les chefs de nos partenaires de l'UPDF que les ADF se reconstituent. Et donc, il n'est pas question de céder au défaitisme et considérer que les ADF sont des extraterrestres. Si notre armée aujourd'hui décide de ne plus continuer à négliger les alertes, de renforcer les renseignements par la collaboration avec tous ces pisteurs-là et renforcer la dotation logistique et la motivation de nos forces, eh bien, il est possible d'en venir à bout.
Merci.
De ces actes et de recouvrer la paix dans cette région.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Albert Polembela de Tomba, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le dernier massacre que nous enregistrons à ce jour, c'est une théorie de trop. Et la nation peut être patriote de jour en jour. L'état de siège n'est plus confiant aux yeux de certains Congolais, car le résultat que nous attendons est d'être une réalité. L'armée congolaise espère évaluer son résultat sur le terrain afin d'adapter les nouvelles stratégies qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. À mon avis, le gouvernement congolais devrait appliquer d'autres options, car l'option militaire ne nature plus confiante.
Professeur Casimir Ngoumbi.
Merci beaucoup. Je crois que l'auditeur résonne très bien. Voici mes réactions. D'abord, il y a lieu et confirmé, et je le sais, que nous avons des militaires formés dans des grandes écoles de la planète et qui sont capables, n'est-ce pas, de traquer en un temps record les alliés. Mais pourquoi cela n'arrive pas? C'est qu'il y a des explications. Nous pouvons être financièrement forts, militairement forts, mais idéologiquement moins forts. Nous pouvons être idéologiquement forts, militairement moins forts, financièrement moins fort, nous ne pouvons pas l'emporter sur les adeptes, sur l'ennemi. Moi, je suis professeur. Lorsque j'interroge un étudiant, je dis, voilà, vous allez au front, nous avons besoin d'une victoire en un temps record. Je donne la réponse que je cherche du côté du militaire étudiant. Votre réponse que je cherche, c'est la restauration de la paix durable sur toute l'étendue du territoire national en un temps record. Seuls les FARDC n'ont pas réussi à le faire. Avec la mutualisation de l'UPDF, ça traîne encore. Voici pourquoi j'ai dit peut-être que le poids politique de l'ennemi serait au-dessus des forces des FARDC. En ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Si, sur le plan militaire, ça ne va pas, et alors il faut interroger du côté de la diplomatie. C'est le rôle ici de la diplomatie d'identifier les ennemis de la République démocratique du Congo, qu'il s'agisse des voisins, des multinationales, des lobbies à l'étranger, comme je venais de le dire avec le Soudan, qui a été attaqué plusieurs fois avant sa balkanisation. Mais écoutez, les affaires étrangères servent à quoi? Notre diplomatie sert à quoi? C'est pas seulement pour aller chercher l'argent afin de réaliser des travaux de développement sur le plan économique, social, mais aussi c'est identifier nos ennemis réels et potentiels
afin d'envisager de voies diplomatiques pour pouvoir leur donner ce qu'il faut sur notre terrain et ainsi reposer nos troupes.
Et donc, vous êtes d'accord avec l'auditeur qui pense qu'il faut exploiter d'autres pistes, qu'il faut privilégier, n'est-ce pas, d'autres options?
Affirmatif, Dimaté. Parce qu'en fait, nous avons effectivement la difficulté, peut-être qu'on les connaît, mais de la difficulté d'identifier nos ennemis, les véritables ennemis de la RDC, afin de pouvoir envisager des voies diplomatiques pour reposer les militaires et puis restaurer le plus rapidement possible la paix. Si cela est possible, si les agendas ne viennent pas des grandes puissances, et si ces agendas ne peuvent pas permettre, comme maintenant nous assistons actuellement avec la Russie contre l'Ukraine, hein, vous voyez, la force de frappe de la Russie est telle que, quelle que soit la force que l'on peut trouver en Ukraine, c'est difficile, hein, la Russie va finir par contrôler l'Ukraine. Donc, c'est exactement ce que j'ai dans ma tête. Loin de moi l'idée de minimiser les services que j'aime beaucoup, les services de sécurité que j'aime beaucoup, mais moi j'imagine que lorsque les résultats prennent, c'est qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas un autre mot que je peux utiliser en dehors de la faiblesse ou de stratégies qui ne supplantent pas les stratégies des autres, je ne connais pas, mais au moins lui en tant que militaire sur le terrain, il peut tirer une leçon et considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut donc corriger rapidement pour éviter que les choses ne dure le plus longtemps possible.
Merci, capitaine Anthony Mualushai. Qu'est-ce que vous pensez de l'approche holistique, n'est-ce pas, que beaucoup d'experts ont toujours proposé pour ramener la paix de manière durable dans cette partie du pays, l'est de la RDC?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec le professeur pour plusieurs axes à la fois dans ces opérations. Vous savez, nous sommes en train de faire face à une menace internationale parce que ADF, c'est un mouvement terroriste international. Alors, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire comme opération sur terrain, il faut aussi activer d'autres axes. Axes politiques, axes diplomatiques et autres axes. C'est comme ça qu'on finira une fois pour toutes avec la situation de sécurité ici à l'est de la RDC. Et aussi, ce que je demande à nos politiques, quand on parle de la sécurité, nous devons mettre à côté nos divergences politiques. Faisons comme, parce que le professeur a invoqué le cas de la Russie et l'Ukraine, et je vous montre comment l'Union européenne est soudée aujourd'hui. C'est comme ça quand on a un objectif à poursuivre. Nous avons besoin de la paix, nous devons nous souder. C'est notre armée, c'est notre population qui est en détresse. Nous devons maintenant s'asseoir, dire qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour que les opérations sur terrain soient efficaces. Là, je suis tout à fait d'accord.
Merci, mon capitaine Anthony Mualushai. Je considère ça comme votre conclusion. Jean-Baptiste Mouindo, c'est quoi votre conclusion?
Le mot qu'elle a fait, c'est que les autorités de l'état de siège, de même que le ministre de la Défense et l'état-major général de FARDC, doivent fournir plus d'efforts. Nous ne pouvons pas accepter que 10 mois d'exercice de l'état de siège où la population a accepté de vivre privée de toutes ses libertés. On a donné toutes les prérogatives à l'armée. Bientôt l'état de siège va faire une année. Dans cette session parlementaire de mars qui commence le 15 mars, les ministres de la Défense, les autorités provinciales de l'état de siège doivent venir rendre compte devant l'Assemblée nationale parce que il n'est pas envisageable pour nous qu'à la fin de cette session parlementaire, le 15 juin, l'on puisse donner à nouveau une habilitation au gouvernement à continuer alors que les résultats ne sont pas encourageants. Au même moment, j'en appelle à des mesures de renforcement de la collaboration entre l'armée et la population, notamment le fait de ne pas négliger les alertes. Je sollicite la libération des militants des mouvements citoyens, la lucha, dont certains sont menacés de mort, des maladies à la prison de Beni, mais également des collègues députés provinciaux qui sont arrêtés simplement pour avoir dit que les tueries continuent. Renforçons la collaboration entre l'armée, la population et les services de sécurité. Exigeons compte au ministre de la Défense, aux autorités de l'état de siège et à l'état-major général afin que l'armée soit placée dans des mesures qui permettent de renforcer sa capacité pour qu'il y ait avantage de la mutualisation avec l'armée ougandaise, tout en décourageant les menaces qui s'annoncent à partir de certains pays voisins,
comme les Rwandais qui nous menacent indirectement.
Merci, professeur Casimir Ngoumbi. Votre conclusion?
Lorsque les solutions militaires démontrent leurs limites, il faut envisager des approches diplomatiques pour restaurer la paix durable dans le pays. Il faudra aussi que les militaires de la RDC se reposent, comme ceux de la France, d'autres États. Même les militaires russes, c'est pas tous les jours qu'ils sont forts. Nous avons besoin de le faire. Regardez dans les camps militaires le nombre de veuves qui ne fait qu'augmenter, le nombre d'orphelins qui ne fait qu'augmenter. Moi, j'ai l'impression que nous devons nous arrêter et regarder les choses en face et prendre des solutions qui soient durables.
Merci, merci au capitaine Anthony Mualushai, au député Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa et au professeur Casimir Ngoumbi d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Hippolyte Kapanga qui était à la technique et aussi à Kelly Nkoute et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bon suite des programmes sur Radio Capi.